Il maîtrise la joute oratoire et l'art de persuader. Alexandre Dubé.
Au cœur d'une tourmente depuis la démission de la co-porte-parole féminine de Québec solidaire, Gabrielle Nadeau-Dubois était de retour à l'Assemblée nationale et il a fait une sortie, une proposition de revoir de fond en comble le programme de Québec solidaire. Il veut que la formation politique qu'il représente soit plus pragmatique et qu'elle devienne un parti de gouvernement. Amir Kadir est ex-co-porte-parole de Québec solidaire. Bonjour, Monsieur Kadir, merci d'être là. Dites-moi, qu'est-ce que vous avez pensé de la sortie de Gabrielle Nadeau-Dubois? Oh, M. Kadir, moi, je vous entends pas.
Est-ce que vous m'entendez bien?
Ah oui, là, maintenant, je vous entends bien. On libère votre parole.
Quelqu'un avait voulu me museler.
C'est ça.
Enlever mon doigt.
Je vous jure que c'est pas moi.
Alors, oui. Alors, d'abord, il faut dire que pour un jeune... parce que Gabriel a à peine un peu au-dessus de 30 ans. C'est vraiment une grande tourmente, puis il s'en est bien sorti avec beaucoup de bagou, avec force. Pour un vieux routier comme moi, il faut reconnaître. Maintenant, j'espère que les gens ont quand même retenu aussi qu'il a reconnu qu'une partie des problèmes relevaient de lui, même si ça a pris une place secondaire. Il n'a pas nié qu'un certain nombre de choses qui relèvent de sa personne. Vincent Marissal, par exemple, son collègue, parle de, disons, des améliorations sur le plan de sa gestion, disons, de l'équipe. Ensuite, on entend souvent, lorsqu'on écoute des gens, qu'il faudrait qu'il élargisse son cercle d'écoute, que l'approche avec nos équipes, qu'on soit plus bienveillant à l'entour de nos personnes, de nos équipes. Faut qu'on fasse attention avec une approche que je dirais féministe, bienveillante, comme il se doit.
Mais en clair, là, est-ce que c'est sa petite... Monsieur Kadir, ce que j'allais dire, est-ce qu'en clair, ce qu'on dit, c'est est-ce que c'est une petite clique qui gère Québec solidaire autour de Gabrielle Nadeau-Dubois?
Non. Regardez, toutes les personnes qui sont placées dans une enceinte... une espèce de, je dirais, de cirque de gladiateurs, comme peut l'être parfois l'Assemblée nationale, a besoin d'une équipe rapprochée en qui la personne a totalement confiance. Maintenant, quand ça va très vite, puis Gabriel en a beaucoup sur les épaules, c'est sûr que là, il peut y avoir un glissement dans lequel on est tout le temps retranché en petits groupes pour essayer de se défendre. Puis ça, c'est là que le parti a besoin d'accompagner Gabriel pour sortir de ça, élargir son cercle d'écoute, de décentraliser. C'est une question aussi de décentralisation, parce qu'à partir du moment où tu fais ça, ben une série de décisions sont prises en petits groupes, puis là, les gens, les autres pensent qu'on les a écartés. Maintenant, je pense que le parti est capable, maintenant qu'on a pris conscience de l'ampleur des problèmes que ça peut occasionner, notamment la démission de notre haute porte-parole, de corriger ça, puis il faut que Gabriel soit ouvert à cette aide qui vient de notre part.
Est-ce que dans votre esprit, c'est la fin du système de co-porte-parole, hein, qui avait quand même bien fonctionné, que ce soit vous avec Mme David? Est-ce qu'on a atteint un point de rupture?
Non, pas vraiment. C'est sûr que si on corrige ces problèmes, on a fonctionné depuis 20 ans, parce que Québec solidaire a été fondé en 2006. Puis déjà, avant ça, moi, j'étais dans l'Union des forces progressistes, on avait le même fonctionnement. C'est sûr qu'il y a des fois des tensions, surtout quand tu es à l'extérieur de l'Assemblée nationale. Puis en plus, Émilie était vivant à Rouyn-Noranda, ça rendrait les choses encore plus compliquées, sa présence plus difficile à assurer. Et donc, comme l'Assemblée nationale, ça va très vite, je ne sais pas si vous y avez déjà été, mais pour tous vos collègues qui vivent à la cadence de l'Assemblée nationale, on peut être vite dépassé si on est à l'extérieur de l'Assemblée nationale. Donc, c'est sûr que c'est une tension qu'il faut régler. Puis, comme Gabriel, comme je vous dis, on demande à Gabriel en même temps de percer dans les médias, de faire en sorte que Québec solidaire perce dans les médias, se laisse pas dépasser. Donc, il a beaucoup de mandats à accomplir. Et puis, avec Québec solidaire, qui a eu des changements aussi au niveau de sa direction, la directrice générale a changé, la présidente du parti a changé. Tous ces changements en même temps ont fait que, je pense, on a un peu échappé dans la mesure où on n'a pas assuré un bon équilibre pour que notre nouvelle porte-parole puisse avoir toute la place, toutes les ressources. Mais ça, c'est un phénomène passager. Puis il faut que Gabriel, comme tout le monde, on se ramasse puis on trouve une solution à ça.
Mais quand je le cite, puis quand je l'entendais dire que sa formation doit devenir un parti de gouvernement, c'est pas déjà le cas. Chez Québec solidaire, vous, là, vous souhaitiez être au gouvernement quand vous étiez là, M. Kadir? Corrigez-moi si je me trompe, là, mais c'est pour ça que vous étiez là.
Oui, parfois, les commentateurs, disons, analysent ce qui est dit, disons, suivant leur propre grille de signification. Par exemple, quand Gabriel ou moi, on dit qu'il faut qu'on soit pragmatique, il faut qu'on soit lucide, tout de suite, on y voit une équation avec le manifeste pour un Québec lucide de Lucien Bouchard, qui est une espèce de fatalisme. Or, lucidité et fatalisme, ce n'est pas pareil. Depuis notre fondation, des gens comme Françoise David, François Saillant, moi-même, plein de monde, ceux qui ont fondé Québec solidaire à sa fondation, on était justement des gens très pragmatiques et conscients que s'il fallait changer les choses, il faut prendre le pouvoir. Donc c'est pour ça qu'on est là, c'est pour ça qu'on a déployé autant d'énergie. On n'est pas là juste pour une parade. Sauf que la question qu'on se pose, parce qu'il y a eu des exemples dans l'histoire lointaine, mettons Bob Rae qui est arrivé au pouvoir en Ontario, puis là ça a fait patate, mettons pour résumer les choses, ou encore Syriza, le gouvernement grec, en 2015, qui a pris le pouvoir, portait beaucoup d'espoir d'aider le peuple grec à échapper à, je dirais, au dictat des marchés financiers, puis à les libérer du joug de ces prêteurs internationaux et des dictats de l'Europe. Or, ça n'a pas été possible. Pourquoi? Parce que les conditions dans lesquelles ils sont arrivés au pouvoir n'étaient pas réunies, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas une mobilisation sociale, il n'y avait pas une force dans la société pour les appuyer. D'où la question, d'où tout notre questionnement, quelle est la part de nos ressources qu'on consacre à l'Assemblée nationale? C'est ce qu'on a fait depuis 15 ans. On a complètement concentré tous nos efforts au travail parlementaire. Est-ce qu'il ne faudrait pas qu'on soit un peu plus présent dans les batailles de rue, dans ce qui se passe dans la société, plutôt que d'être là à 100% tout le temps à l'Assemblée nationale, nos députés consacrer une partie de leur énergie pour être à l'avant-front, avec les écologistes, avec les maires au front, avec ceux qui luttent pour le logement social, toute une série de choses qui sont déjà en train d'être faites, mais qu'il faut accentuer pour que notre message passe.
Quand on regarde les trois grands chantiers qui sont proposés par Gabriel Nadeau-Dubois, on parle, nouvelle proposition pour le parti, le programme de Québec solidaire, le revoir, et la structure de Québec solidaire sera revue. Comment ça va être? Vous avez de l'expérience, là, vous avez le pouls avec les militants. Comment ça va être reçu par les militants? Là, il y aura un rassemblement solidaire en mai. Est-ce que Gabriel Nadeau-Dubois joue son avenir politique sur ces propositions-là?
J'espère que non. En fait, c'est une perception que je trouve malheureuse que de penser que Gabriel, en fait, met sa tête sur le billet. On n'a pas besoin de ça parce que je ne pense pas que Gabriel soit en faveur qu'on dilue notre message, qu'on occupe le centre mou de l'échiquier politique, parce que s'il faut faire ça, ça ne vaut pas la peine. Il y a d'autres partis qui sont des partis de réforme, qui sont capables de faire ça. Le PQ, c'est un parti de réforme. Le Parti libéral du Canada, de Justin Trudeau aussi, c'est un parti de réforme. Or, nous, on pense que des petites réformettes, ce n'est pas suffisant. Il y a des urgences qui s'appellent la guerre, le dérèglement climatique, la croissance des inégalités qui ont des conséquences majeures à toutes les échelles. En fait, le problème, par exemple, l'immigration des réfugiés qui nous arrivent en masse, c'est le reflet des inégalités croissantes dans le monde et des dérèglements. La guerre, je vous en ai parlé, et pour corriger tout ça, il ne suffit pas juste de faire des petites réformettes à la marge, il faut des changements importants, puis je pense que Gabriel est tout aussi persuadé qu'il nous faut ça. Donc ça veut dire qu'à l'intérieur du parti, on ne peut pas remettre en question ces éléments-là. Bien sûr, notre programme est peut-être trop lourd. Et là, quand il dit se centrer sur certains éléments, il veut dire qu'on se concentre sur des priorités. Je suis d'accord avec ça. Mais je pense pas qu'on puisse remettre en question la structure horizontale du parti. C'est-à-dire que nous, à Québec solidaire, c'est dans notre ADN qu'on n'a pas un chef. Et ça veut dire quelque chose. Quand on n'a pas un chef, ça veut dire que Gabriel, comme Françoise et moi, on l'était, comme Manon, on est des porte-parole. On peut pas dicter au parti où s'en aller. On fait les débats ensemble, puis une fois les débats faits, on fait confiance à notre intelligence collective, puis on se rallie, puis on porte ce projet-là ensemble.
M. Kadir, je veux vous entendre aussi sur une question qui est importante, le campement qui se passe à McGill depuis quelques jours déjà. Vous avez vu comme moi cette demande d'injonction qui a été rejetée. Qu'est-ce qu'on fait maintenant pour une sortie paisible de tout ça lorsqu'on voit des débordements à UCLA, lorsqu'on voit des débordements à Columbia? On ne veut pas voir ça ici, là.
À UCLA, le débordement, si vous avez, on a été attentifs, j'espère, vos auditeurs aussi, c'est des jusqu'aux boutistes et des fanatiques pro-israéliens pour qui toute critique d'Israël, c'est de l'antisémitisme. En fait, si on les écoute, moi, là, je serais un islamophobe parce que je critique depuis 40 ans le gouvernement théocratique en Iran. C'est comme si je serais anti-iranien parce que je critique son pouvoir. Et c'est ce que disent ces gens-là. Il y a un certain lobby qui veut nous faire croire que critiquer Israël, demander la fin du génocide, c'est de l'antisémitisme. Or, ce que demandent les étudiants, puis je pense que McGill commence à ouvrir le jeu, ils disent, écoutez, là, on ne veut pas que l'argent de dotation de McGill, 1,2 milliard, il y en a 60 millions qui sont investis dans des business en Israël qui profitent de la guerre, qui profitent des malheurs du peuple palestinien. On veut que cet argent-là soit enlevé, comme on l'a fait pour le tabac, comme on l'a fait pour un tas de choses dans le passé. Pour l'apartheid, on a fait la même chose. On a dit, on ne veut pas que l'argent de nos universités, de nos administrations publiques, fasse du profit sur le dos de gens qui subissent des injustices qui sont inacceptables. C'est tout ce que demandent les étudiants. Puis j'ai entendu ce matin que McGill est prêt à débattre. Donc McGill le dit ouvertement, pas juste qu'on veut vous entendre, pour dire que c'est légitime de demander qu'on revoie notre politique. De la même manière qu'on a retiré, McGill là, a retiré ses billes des énergies fossiles, a dit, oui, on est d'accord, on est rendu à un point où c'est inacceptable que McGill investisse dans des business qui profitent des énergies fossiles. Mais si on trouve que c'est inacceptable d'investir dans les énergies fossiles, c'est inacceptable d'investir dans des colonies qui sont illégales aux yeux de l'ONU puis aux yeux du Canada, puis en plus, qui permettent au génocide de se perpétrer, au nettoyage ethnique d'avoir lieu.
Mais M. Kadir, lorsqu'on voit des vidéos là, où des gens scandent retourner en Europe, tous les sionistes sont des racistes, ça n'en est pas des débordements, ça?
Mais le sionisme contient du racisme, ça c'est évident. Le sionisme là consiste à dire qu'il faut qu'on retourne dans une terre que la Bible ou le Torah nous a promis il y a 2000 ans, puis tous ceux qui ne sont pas juifs n'ont pas le droit. Mais ça c'est du racisme, tout le monde le reconnaît, même l'ONU l'a reconnu en 1967. Le projet sioniste contient un élément ethnique centré sur une ethnie puis un nationalisme étroit qui donne des droits en vertu du fait que tu es juif et qui enlève des droits en vertu du fait que tu n'es pas juif. Ben, suivant les définitions modernes du racisme, c'est du racisme. Donc, dire que le sionisme est un racisme, c'est un débat politique. On peut ne pas être d'accord, mais c'est pas de l'antisémitisme. De la même manière que quand je dis la religion, l'islam au pouvoir, ça occasionne presque un génocide, c'est-à-dire l'enlèvement des droits d'existence à la moitié du peuple iranien. C'est pas du racisme contre les Iraniens, c'est pas de l'islamophobie, c'est juste traduire une réalité.
Amir Kadir.
Le débat, c'est pas que quelques étudiants se sentent mal à l'aise parce qu'on dit que le sionisme est une forme de racisme. Le débat, c'est qu'il y a un génocide, puis McGill, avec son investissement, fait du profit sur le malheur des Palestiniens dans des territoires illégalement occupés suivant les décisions de l'ONU et du Canada. Donc, il faut y voir. Ça, c'est beaucoup plus important que mon malaise personnel.
Amir Kadir, co-porte-parole de Québec solidaire, merci pour votre point de vue là-dessus.